Vous êtes sur Okapi, il est 12h à Kakobola dans le Bandundu, une heure de plus à Makobola au sud Kivu.
Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Tout de suite, le sommaire. Le maintien de l'état de siège au-delà de 120 jours viole les dispositions de certains articles de la Constitution. C'est la réaction de certains parlementaires sur le discours du chef de l'État hier à l'Assemblée générale de l'ONU. Les détails dans un instant. Plus de 100 véhicules bloqués sur la route Bunia-Maagi dans l'Ituri à cause du mauvais état de ce tronçon. En outre, les usagers disent être exposés aux exactions des groupes armés. Ils demandent au gouvernement d'inscrire la réhabilitation des routes dans ses priorités pendant l'état de siège. Et puis, l'insécurité en Ituri a jeté plus d'1,7 million de personnes dans la rue, selon les chiffres des humanitaires. Le retour d'une paix durable dans cette province passe par une prise de conscience collective, estime le responsable de la communauté islamique en Ituri, Cheikh Choukrani Biaroufou, et notre invité ce midi. Madame, Messieurs, bonjour. Aucune disposition constitutionnelle n'autorise au président de la République de maintenir indéfiniment l'état de siège. Telle est la réaction de certains parlementaires sur le discours du chef de l'État hier à l'Assemblée générale des Nations unies. Si pour ceux de l'Union sacrée, la prorogation de l'état de siège vaut son pesant d'or, tant que l'insécurité va continuer à prévaloir dans cette partie du pays, ceux de l'opposition estiment qu'en disant que l'état de siège ne sera levé que lorsque les circonstances qui l'ont décrétés disparaîtront. Félix Antoine Tshisekedi se moque du rôle que doit jouer le Parlement conformément à l'article 144 de la Constitution. Pour eux, le maintien de l'état de siège au-delà de 120 jours viole les dispositions des articles 76, 197 et 220 de la Constitution. Michel Kifindangoy.
À en croire le député de l'opposition Jean-Baptiste Mouindo, les dispositions constitutionnelles en vigueur en RDC, dont l'article 220, n'autorisent pas de proroger indéfiniment l'état de siège.
Les prorogations perpétuelles de l'état de siège mettent les institutions provinciales à congé à l'article 76, à cas de vacances à la présidente de la République, ou à l'article 197, à cas de dissolution de l'Assemblée. La Cour constitutionnelle ne peut accorder à la CENI qu'un délai maximum de 120 jours. En vertu de quoi lui va-t-il accorder à l'état de siège un délai au-delà de 120 jours?
Toutefois, les députés Jackson Haoussé de l'Union sacrée félicitent le chef de l'État d'avoir mobilisé la communauté internationale contre les forces négatives dans l'Est.
Il n'y a pas la raison qu'on puisse lever l'état de siège, étant donné que les causes qui ont motivé cette proclamation existent encore bel et bien. Malheureusement pour nous, c'est que nous mettons la population dans une mesure exceptionnelle. La Constitution a voulu que des mesures exceptionnelles ne durent pas longtemps.
L'élu de l'Ituri plaide pour la mise en place urgente des mécanismes mais DDRC pour encourager les groupes armés à se rendre, ainsi que pour le lancement des opérations militaires contre les milices étrangères.
Suspension de la filière de médecine à l'université de Kananga. Les sénateurs du Kasaï central haussent le ton au cours d'une rencontre hier avec le président du Sénat. Ces sénateurs ont évoqué deux autres points en plus de leur inquiétude relative à l'interdiction par le ministère de l'ESU à l'université du Kasaï d'organiser la filière de médecine, le manque des vols pour desservir l'espace Kasaï depuis la révision à la baisse des prix des billets d'avion, ainsi que le manque des matériels appropriés pour la police qui assure la sécurité de la population, préoccupe au plus haut point ces sénateurs. L'un d'eux, le sénateur Denis Kambayi, s'exprime au micro de Michel Kifindangoy.
Vous savez, depuis que le gouvernement des Warriors, le gouvernement de la République, a eu à prendre la décision pour la baisse des prix de billets en ce qui concerne le voyage à l'intérieur, il y a beaucoup de compagnies qui posent problème aujourd'hui. Ce qui est scandaleux, c'est de comprendre qu'au niveau de la province du Kasaï central, nous n'avons aucun vol. Nous n'avons aucun vol, les gens ont des difficultés d'aller atterrir soit à Mbujimayi ou à Chikapa et prendre la route avec tout ce qu'il y a comme conséquence sur des motos. Et vous savez, la province du Kasaï central est fondamentalement enclavée. c'est au centre de la RDC. Et en tant que sénateur du coin, nous devrions nous mettre debout quant à ce. Et la troisième préoccupation est celle liée à la sécurité. La province du Kasaï central n'a aucun véhicule de patrouille policière. Vous savez que c'était le fief de Kamouina-Sarou. Aujourd'hui, ça pose problème de constater que la police qui opère fait des patrouilles à pied, des kilomètres et des kilomètres. C'est un problème.
Par ailleurs, le président du Sénat s'est entretenu avec la délégation du Centre européen pour l'appui électoral. Les hôtes de Modeste Bahati ont été édifiés sur les réformes de la CENI et les aspects politiques qui les entourent. Cette structure, disposant de l'expertise en matière électorale, travaille en collaboration avec l'Union européenne. Direction l'Ituri, je vous le disais en titre, plus de 100 véhicules sont bloqués sur le tronçon Bunia-Mahagi. Sur la nationale numéro 27, cette route s'est détériorée, surtout pendant cette période pluvieuse. Les chauffeurs se plaignent également de la détérioration de l'axe routier Bunia-Komanda-Luna. Ils se disent surtout exposés aux attaques des miliciens de la Codeco et des rebelles ADF qui tendent des embuscades contre les usagers de route. Ils demandent au gouvernement d'inscrire la réhabilitation des routes dans ses priorités pendant l'état de siège. Plus de détails avec Isaac Remboyopé.
Plusieurs bourbiers parsèment les tronçons Jina, Matete, Pizzo et Pimbo sur la RN27, affirment des chauffeurs. Certains véhicules se renversent et bloquent la circulation. Depuis mardi, plus de 100 camions transportant des marchandises sont bloqués sur cet axe. Même décor sur les tronçons Bunia Komanda et Komanda Luna, c'est la route nationale numéro 4 où des véhicules font parfois une journée ou deux jours sur une distance de 50 km. Selon les usagers des routes, les groupes armés dont Codeco et ADEF profitent de l'état de délabrement de ces tronçons pour tendre des embuscades contre les véhicules et piller les marchandises. Ils demandent au gouvernement de réhabiliter d'urgence ces routes qui contribuent au développement de la province. Contacter les chefs de la CELI de communication du gouvernement provincial indique que le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Kachama, a renouvelé le contrat signé par son prédécesseur avec les entreprises qui étaient chargées de réhabiliter ces tronçons. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que les travaux seront lancés bientôt.
Le gouverneur militaire, il a redynamisé ses attributeurs pour arriver à porter la solution sur le voie routière, parce que avoir un réseau routier plus fluide va permettre la réussite des opérations. Ça fait partir des priorités du gouverneur.
De Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, le pont Vulindi reliant la ville de Butembo au groupement de Malio dans la chefferie de Bachou a été incendié la nuit dernière. Il s'agit d'un pont d'importance économique et sécuritaire capitale. La veille de l'incendie, un groupe d'hommes armés avait lancé une attaque contre une position de l'armée à Butoué, chef du groupement Malio. Le récit de Florida Kahambu.
Des sources concordantes rapportent que le pont Vulindi a été scintillé autour de minuit. Les auteurs de l'incendie ne sont toujours pas connus. Les flammes ont sérieusement endommagé l'ouvrage. Tous les platelages placés sur les supports métalliques est parti en fumée. Ce pont joue pourtant deux rôles capitaux pour la survie de la population de la ville et du groupement Malio. Du point de vue économique, l'ouvrage facilite les transports des camions qui approvisionnent la ville de Butembo en produits vivriers, notamment les cossettes de manioc, les haricots et les légumes. Sur le plan sécuritaire, cet ouvrage constitue l'unique voie qui permet aux forces de sécurité d'intervenir promptement en cas de toute menace signalée dans cette partie de la chefferie de Bachou, en proie à plusieurs groupes armés. Le dernier cas en date remonte au lundi. Des casques bleus de la Monisco ont emprunté le même pont lorsqu'ils ont été alertés de l'attaque d'hommes armés contre une position de phare d'essai à Butoué. Vu l'importance de ces ponts, des jeunes sont vite intervenus dans la matinée pour éteindre le feu et remplacer tous les bois consumés. Les bourgmestres de la commune de Vulamba, le commissaire supérieur principal Suelen Sendetrifon, affirme que ces jeunes ont été appuyés par la MONUSCO. La même source fait savoir que les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de cet acte. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Sud Kivu, l'ex-chef rebelle Chance Mionya a été condamné hier à la réclusion à perpétuité. Il était poursuivi notamment pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce jugement a été rendu par la cour militaire de Bukavu au cours d'une audience publique à Katana, dans le territoire de Kabare. Le condamné doit également payer des dommages et intérêts aux victimes d'un montant de plus de 300 000 dollars. Mais qui est Chance Mionya? Quel est son parcours? Son portrait avec Cynthia Bachizi.
Cet ex-rebelle est né en 1975 au village de Tchandondo dans les limites du parc national de Kahuzi-Biega. Chance a déclaré à la cour être marié et qu'il était père de 17 enfants. Ses premiers bruits de bottes sont avec l'FDL qu'il intègre en 1996 à 21 ans. Lors de la guerre de 1998, il reste dans l'armée du RCD, le mouvement politico-militaire qui contrôlait alors l'est du pays. Dans les rangs de l'FDL et du RCD, il est désigné comme tireur des armes lourdes dans ses unités. Arrive 2003, accord de Sun City, le pays réunifié, la nouvelle armée congolaise est issue d'un brassage. C'est ainsi que Chance est enrôlé dans les FRDC avec grade de lieutenant avant d'être nommé capitaine en 2011. 2017 marque sa désertion et le début de son activisme armé. Il s'autoproclame colonel et crée un groupe armé Mai Mai. Attaque armée, torture, viol, enrôlement d'enfants, ce fils du terroir a semé un climat de terreur à Kabaré avant d'être arrêté dans le parc en mai 2020. Seul bémol, le procès de Chance n'a pas su déterminer qui lui fournissait les armes. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Retour en Ituri. 13 cas de violence sexuelle sur mineurs sont enregistrés en l'espace d'un mois à Chomia, au bord du lac Albert. Nous sommes à 50 km au sud-est de Bunia, dans le territoire de Djougou. Ces chiffres ont été livrés à la presse ce mercredi par l'ONG Coalition Associative Résolue pour la Promotion et la Défense des Droits Humains, COARDO en sigle. Selon cette organisation, la plupart des auteurs sont des hommes en armes. Elle demande à la justice de réprimer ces actes devenus récurrents dans la région. Martial Kiza pour les détails.
Les derniers cas de viol a été enregistré le mercredi de la semaine passée. La victime est une fillette de 13 ans violée par des inconnus sur place à Chomia. Selon l'ONG Coardo, 8 autres cas de viol sur des filles mineures ont été notifiés à la fin du mois d'août dans la même entité. Et depuis le mois de septembre, 5 autres cas sont déjà répertoriés. Le coordonnateur de cette structure, Hakim Bia Rwanga, s'est dit consterné de constater que ce phénomène devient banal dans cette entité là. Sans aucune intervention des autorités. Il précise que la vulnérabilité de la population composée essentiellement de déplacés de guerre constitue la principale cause de ces violences sexuelles. Cette ONG pointe du doigt les hommes en armes qu'elle accuse d'être les auteurs de ces actes odieux. Cette organisation de défense des droits de l'homme plaide pour que la justice ouvre des enquêtes afin que les bourreaux soient arrêtés et jugés pour décourager cette pratique. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Justice, le procès Chewea et Bazana a repris il y a quelques minutes devant la haute cour militaire à la prison militaire de Ndolo ici à Kinshasa. La haute cour a notifié hier au parti civil Chewea et Bazana la reprise du procès en appel du double assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chewea et Fidel Bazana. Le premier à comparaître, c'est le policier Christian Ngoy Kenga Kenga qui est en train de décliner son identité. Il a créé un petit incident en refusant de se présenter à la barre, préférant parler plutôt à distance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Deuxième jour, ce mercredi à Lubumbashi, de l'atelier portant élaboration et validation de la feuille de route provinciale pour l'éradication de l'apatridie dans l'espace Grand Katanga, organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié ACR, sous délégation de Kalemi. Cette rencontre réunit les participants venus de cet espace. Parlant de l'apatridie, qu'en est-il de la province du Lualaba? La réponse avec Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba. Il est au micro de Jean Gandou.
La province est suffisamment grande avec des frontières avec la Zambie, l'Angola, le Kasaï, les Olomami. Nous avons des gens qui circulent de part et d'autre et nous avons suffisamment de criseurs qui viennent de partout sans savoir d'où ils viennent. Avec le problème d'état civil dans notre pays, avec le problème de recensement de la population, il est difficile de situer qui vient d'où. Alors je ne sais pas rejeter qu'il y ait des cas d'apatridie dans la province du Lualaba comme il y en a ailleurs. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est d'encourager ce genre d'atelier pour que les efforts soient mis ensemble et qu'il y ait zéro apatridie, même si ça aussi c'est un idéal. Les causes, il y en a beaucoup, entre autres l'urbanisation, l'enregistrement des naissances, l'absence des routes, parce qu'il y a des entités là où l'état civil n'existe même pas. Bref, nous avons des efforts à fournir dans tous les secteurs, en commençant par la naissance, c'est-à-dire dans nos centres hospitaliers, l'état civil, c'est-à-dire les entités décentralisées, les entités déconcentrées. Bref, chacun doit faire son travail.
Et puis, combattre la diffusion des fausses informations, des discours de haine et des messages d'incitation à la haine par la presse, c'est l'objectif d'un forum d'échange organisé à l'intention d'une quarantaine d'hommes et des femmes des médias de Kinshasa. C'était hier, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, Christophe Boulirac, directeur de la stratégie de communication et de la division de l'information publique de la MONUSCO, organisateur de ce forum, a représenté la chef de la mission onusienne en RDC. Il explique ici l'intérêt de ces échanges au micro d'Honoré Missing.
Plus l'information produite est professionnelle, moins le discours de haine, je pense, a d'espace pour circuler. C'est ce que nous faisons depuis 20 ans avec Radio Okapi. Et c'est un combat renouvelé chaque matin. Au moment où nous allons entrer dans une période préélectorale, il est à craindre que la désinformation et les discours de haine n'aillent en s'aggravant. Donc, nous le savons, les mots peuvent tuer. Il est donc important que nous entendions aujourd'hui, même si ce n'est pas la première fois, des spécialistes du pays nous rappeler les principes déontologiques de l'activité journalistique. Des spécialistes qui vont nous aider à analyser et décortiquer les discours de haine pour mieux les débusquer et les combattre et mettre en place des mécanismes de fact-checking.
Actualité internationale.
Un sommet virtuel de la vaccination doit se tenir aujourd'hui dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations unies. À l'origine, une idée de l'ONU, l'administration Biden a tenu à la récupérer. Les États-Unis devraient ainsi demander aux 193 pays des engagements sur des objectifs de vaccination des populations contre le Covid-19 à tenir pour septembre prochain. En Libye, à 3 mois seulement de la date des élections générales prévues le 24 décembre, le Parlement libyen a voté hier une motion de censure contre le gouvernement de transition d'Abdel Hamid, une complication de plus après la demande lundi du Haut Conseil de l'État d'ajourner l'élection présidentielle et d'organiser uniquement des législatives à la fin de l'année.
L'invité.
L'humanité a célébré hier 21 septembre la Journée internationale de la paix. L'Ituri reste malheureusement l'une des provinces confrontées à l'activisme des groupes armés, une situation qui a jeté dans la rue plus d'1 700 000 personnes, selon les chiffres des humanitaires. Pour le responsable de la communauté islamique en Ituri, le retour d'une paix durable dans cette province passe par une prise de conscience collective. Cheikh Choukrani Biaroufou est notre invité. Il s'entretient avec Jean-Claude Loki.
Monsieur Chikan, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale de la paix. Pour vous, la paix a quel sens? Surtout nous qui vivons en Ituri, quoi.
La paix est primordiale pour la communauté islamique. Ça a un grand sens dans le sens où l'islam même veut dire la paix, la tolérance et la soumission aux lois divines. Et pour nous, la paix est une denrée rare qu'il faut vraiment tenir compte de ça. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui, en tout cas, il faudrait qu'on tienne compte de ça. Et puis que ça soit une occasion de faire l'éveil de conscience. Surtout, faire comprendre aux jeunes, aux vieux, à tout le monde, ce que nous faisons aujourd'hui peut avoir des conséquences néfastes à l'avenir. Et s'il faut laisser quelque chose pour l'avenir, alors il faut tout faire pour que la paix règne, pour que la paix soit pérenne.
Mais selon vous, quelle analyse faites? Pourquoi, malgré tout le travail qui est fait, sensibilisation, dialogue intercommunautaire, intercommunautaire, rapprochement des sensibles de terrain, pourquoi malgré toutes ces approches, l'Ituri continue à vivre dans tout ce qu'il y a aujourd'hui, la division, la haine, le communautarisme, l'Ituri, l'incendie, pourquoi selon vous?
Chacun a ses approches, chacun voit cette situation de la manière où peut-être il se trouve, dans l'environnement où il se trouve. Mais par rapport à nous les confessions religieuses, nous pensons que c'est aussi l'approche de la fin du monde. Lorsque la fin du monde viendra, des situations pareilles seront certainement là pour nous prouver que la fin du monde est là. Mais de l'autre côté, on ne peut pas dire que c'est la fin du monde, alors il faut nous laisser aussi faire pour que les gens continuent à mourir. Moi je pense qu'il y a le problème de cupidité, il y a le problème des intérêts égoïstes, il y a le problème de manipulation politicienne. Tout ça, il faudrait que nous les Ituriens puissent parler une seule langue, soit comme un seul homme et un seul langage qui va permettre à ce que tout le monde soit uni pour cette paix chèrement acquise même, parce que il y avait des problèmes auparavant, mais il y avait quand même une paix parce qu'il y avait une guerre de triste mémoire ici en Ituri. On a fait quand même un effort, il y a calmie, les gens essayaient déjà de vivre ensemble, essayaient de conjuguer de vivre ensemble. Mais maintenant le problème est revenu encore, ça fait 4 ans, 5 ans, et les théories continuent, les théories à grande échelle, il y a des récréations d'insécurité. Nous pensons que nous déplorons cette situation, en tant que confession religieuse. Mais aussi il y a le problème même de ces investisseurs là, vous dites. Il y a deux façons de voir. Premièrement, Il voit que l'Ituri est en guerre, l'Ituri est à l'insécurité. Ils ne peuvent pas venir investir ici chez nous. Et ce sont des manques à gagner. C'est nous qui souffrons. C'est cette population iturienne qui souffre, qui continue à souffrir. Une population meurtrie. Mais de l'autre côté, ces mêmes investisseurs aussi, lorsqu'ils voient que nous ne sommes pas à mesure de conjuguer le verbe vivre ensemble, ils ne sont pas à mesure de faire l'éveil de conscience, et aussi en profitent pour attester le fait, pour faire la division, pour mieux régner, afin qu'ils puissent continuer à, si je peux dire, piller ou voler le matière précieuse ou alors la richesse de notre pays et spécifiquement de l'Ituri.
Terminer justement, après cette analyse, après cette réflexion, après cette description, ce jour du 21 septembre pour le peuple iturien, pour les jeunes ituriens, devrait revêtir quel sens pour terminer?
C'est un sens du début, du commencement, du réveil, éveil de conscience. Nous devons nous réveiller. C'est comme si nous dormons. L'Ituri nous appartient.
Et vous avez dit, le peuple iturien est assis sur les richesses.
Bien sûr, ça se voit. Ça se voit. Et c'est la cause même de ces troubles, des tueries, des guerres. Mais, moi, je pense qu'à partir de ce 21, la date d'aujourd'hui, pour moi, c'est une date où la jeunesse, le vieux, les religieux, les politiciens, les gens qui sont au pouvoir, de réfléchir ensemble et dire que non, à partir d'aujourd'hui, trop c'est trop, on doit maintenant faire tout pour qu'on ait la paix dans notre province. Tout le monde doit maintenant voir à son niveau qu'est-ce qu'il doit faire pour contribuer pour la construction de cet édifice de paix pour notre Ituri. Et surtout la jeunesse, parce que ce sont eux qui sont vraiment à la proie de tous ceux qui veulent détruire notre province. Alors je demande à la jeunesse iturienne de s'élever comme un seul homme, de dire non à la violence, non à l'insécurité, oui au développement, oui au changement de mentalité, pour que l'Ituri de demain soit Ituri vivable, en tout cas acceptable, et surtout ça permet aux investisseurs de venir investir chez nous.
Cheikh Chougan, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le responsable de la communauté islamique en Ituri s'entretenait avec Jean-Claude Loki. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Pele Kipela Mondo. La mise en onde de Paul Badianyama et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.
Okapi Sport.
Bonjour amis sportifs, bienvenue à ce journal des sports sur Radio Okapi, à la présentation Kanishi Mukongo Fanigizi. Le championnat national de football se poursuit ce mercredi après-midi avec un seul match sur deux programmé. Le dernier club Motema Pembe DC Mpe de Kinshasa et l'hôte de Simba au stade Dominique Diour de Kolwezi pour un choc important. Pour l'entraîneur de Simba, Omer Mbayo, son équipe est encore en chantier. Elle va se battre devant DCMP.
Ce n'est pas la première fois qu'on a joué avec DCMP. Ce n'est pas la deuxième fois, la dernière fois. L'équipe de Simba est en chantier. L'équipe de Simba, on se prépare en cachette. L'équipe de Simba n'est pas des stars. Les joueurs eux-mêmes se feront stars. Parce que nous travaillons en silence, malgré un gros départ des patrons qui sont sollicités par-ci par-là. Mais nous sommes en train de chercher d'avoir une très bonne équipe. On a des bons éléments. Comme l'équipe est en chantier, on fera une bonne équipe par rapport à celle de la saison passée.
Habitué de la pression, l'entraîneur Omer Mbayo de Simba s'est dit prêt à faire plaisir aux supporters de son équipe.
Moi, je suis habitué à des grandes pressions. Hein. Ce n'est pas la première fois de coacher une équipe qui a des bouts de supporters. Quand il y a la pression, ça te pousse à ce que tu puisses travailler bien et dur pour qu'il y ait des bons résultats. Il y a la pression pourquoi? Les sportifs cherchent la vie. Mais ils oublient que dans un match de football, il y a trois facteurs. Il y a la victoire, la défaite et le match nul. Vous venez d'évoquer que Blessing a fait un match nul avec l'équipe de ESPN. Oui, c'est un championnat. Vous savez, Blessing a passé avec une très bonne équipe, comme aujourd'hui, et tenter de se rechercher, et essayer de savoir aller. Mais nous là, nous sommes Simba Kamikaze, parmi les grands clubs de la ville.
Des propos recueillis par nos confrères de la direction des communications de la Lina Foot au Grand Katanga. Notons que l'entraîneur des DCMP est venu en retard, car ayant connu des difficultés sur le tronçon Lubumbashi Kolwezi. Demain jeudi, Lubumbashi Sport accueillera Sa Majesté Sangabalen de Dumbujmai au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Le même jour, à 15h30 local, la formation de GS Group Bazano va recevoir FC Blessing de Kolwezi. Et puis, La ligne à foot s'est poursuivie hier, mardi, au Nord Kivu. C'était un bon début pour la Zvita Club de Kinshasa, la 27e édition du championnat national Ligue 1, en allant battre la formation de l'AS de Fener de Goma sur la marque de 2-1 pour les comptes de la première journée. Le but de l'équipe locale signé Rigen Ilonga à la 47e minute. Côté Vita Club, Mayamba Obed a marqué à la 52e et Eric Kabwe en fin du match. Bonne nouvelle, le stade de Martyrs de Kinshasa accueillera le match des interclubs de la CAF, de l'AS Vita Club et d'Arin Club Motema Pembe DCMP. La Confédération africaine de football CAF a publié la liste des stades où vont se disputer le match de cette compétition et les stades de Martyrs y figurent. Non retenu par la CAF depuis quelques mois pour les conditions non viables, le stade des Martyrs vient de recevoir une nouvelle pelouse artificielle et les derniers travaux sont en cours de finition, surtout au niveau des tribunes où les nouveaux sièges sont en pleine implantation. Comme vous le savez déjà, un officiel de la CAF était à Kinshasa il y a quelques jours pour constater l'effectivité des travaux de réhabilitation et certainement son apport a permis à ce que le stade soit autorisé à recevoir des matchs. C'est une très bonne nouvelle pour les formations kinoises qui auraient été obligées d'aller à Lubumbashi pour livrer leur rencontre. Notons que Vetclub et DCMP recevront respectivement la formation de Mori Mogalant d'Afrique du Sud et l'AS Kigali du Rwanda le week-end du 22 au 24 octobre pour le match retour. Autre nouvelle, les joueurs Deo Kandamukok et Nicolas Kazadi Okito évolueront du côté des FC Renaissance du Congo de Kinshasa cette saison. Un accord a été trouvé entre le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi avec les FC Renaissance du Congo pour un prêt. Deo Kanda est lié au tout-puissant Mazembe jusqu'en décembre 2021. L'ailier revient d'un prêt non concluant dans le club tanzanien des Simba SC et va aller terminer sa saison au FC Renaissance du Congo. De son côté, Nicolas Okito Kazadi, dont le contrat court jusqu'en juin 2024, retourne au FC Renaissance en prêt d'une saison sans option d'achat. Il a été transféré au tout-puissant Mazembe en 2019 par le même club FC Renaissance du Congo de Kinshasa. Tournoi international de football congolais Tifoko, le coup d'envoi sera donné le 30 septembre prochain à Kinshasa, soit dans 8 jours pour prendre fin le 3 octobre prochain. Cette deuxième édition, qui aura lieu au stade des Martyrs de Kinshasa, va réunir 6 pays, à savoir le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo, pays organisateur. La première édition avait connu la participation des 4 pays, le Niger, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, pays organisateur. Et c'est les Fèves congolais qui avaient battu les Diables Rouges du Congo en demi-finale avant d'écarter le MENA du Niger par 3-1. Il faut noter que ce tournoi est réservé essentiellement aux joueurs évoluant au pays. C'est sur cette information que nous mettons point final à ce journal des sports sur Radio Okapi qui vous a été présenté par Kanishi Mukongo. Merci de l'avoir suivi.